Bonjour à tous et à toutes, chercheurs et chercheuses d'emploi. Vous êtes dans l'émission Paul et les traqueurs d'emploi. Nous allons traquer un maximum d'informations pour vous trouver du boulot. Car Paul est comme vous, comme nous. Paul veut travailler. Should we find it easy?
Can't escape the need to know. Bonjour Clément et bonjour à vous chères auditrices et auditeurs. Avec l'équipe des traqueurs d'emploi aujourd'hui, nous allons, alors c'est un petit peu complexe, mais je me reprends, en tout cas on va voir pas mal de choses, beaucoup de choses aujourd'hui très différentes, mais toujours axées vers l'emploi. Alors on est en présence de monsieur le maire de Tourotte, monsieur Patrice Carvalho, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation et qui va nous apprendre certaines choses et qui pourra aussi nous éduquer en termes d'évolution de l'emploi dans la région.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions qui sont déjà au nombre de 6 sur le site de Radio Graphite www.graphite.net. Je répète www.graphite.net. De plus, si vous êtes à la recherche d'un emploi, rejoignez-nous tous les jeudis matins à l'espace Angèle Fontaine de Tourotte, boulevard Koenig, de 9h30 à 11h.
Pour rappel, l'émission est réalisée par et pour des chercheurs d'emploi. D'ailleurs, faisons un petit tour de table des animateurs présents. Sylvie, comment ça va aujourd'hui ?
Eh bien, actuellement, j'ai retrouvé un petit contrat à temps partiel qui me va très bien, en fait, qui n'a rien à voir avec mon projet de base, mais pour l'instant, ça me va. Donc, voilà. Et toi, Chama, t'en es où ?
Alors moi, toujours en attente pour la formation de gardienne d'immeuble. Donc j'attends que la session ouvre dans le 60. Clément, et toi ?
Alors moi, actuellement, je fais les fruits rouges en job d'été dans mon village. Et avant de faire les fruits rouges, j'étais 2 mois à Erta, au Meux. Voilà, voilà.
Super.
Et toi, Orphée, où tu étais, où t'en es exactement ?
Eh bien, alors moi, ça se précise. Donc ce sera un projet de formation qui démarrera en septembre, sans doute avec Proméo. Voilà, donc pour le moment, tout est sur les rails.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques. Écrasé de certitude dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace et le silence me répond. J'ai l'impression de mourir.
Claude!
Claude! Claude!
Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie, génie. Et je crois en Dieu.
Oh.
Alors, sans interruption et sans d'autres formalités, Monsieur Carvalho, encore merci pour d'avoir accepté notre invitation, pour votre présence ici. On va peut-être commencer l'interview, Clément.
Alors, Monsieur Carvalho, vous avez été député à partir de 1997. Vous êtes à ce jour maire de la commune de Tourotte, président de la communauté de communes des Deux-Vallées. Vous participez encore au développement de la communauté de communes, la CC2V. Pouvez-vous nous faire un bilan des services, des structures, des emplois créés sur le territoire sur les 20 dernières années passées?
Ouais, alors en réalité, c'est chose à faire depuis 35 ans, donc ça remonte un petit peu plus loin. On peut dire qu'on a créé, de par les investissements communaux dans les ZAC, l'aide à l'installation d'entreprises. Moi, j'ai contribué à l'installation de Sun Chemical à l'origine, qui va abandonner une partie de sa production cette année. J'ai contribué à l'installation d'autres entreprises sur le territoire, Eurovia, qui sont une des plus anciennes, mais qui investit beaucoup. Donc on a permis de créer, je dirais, j'ai pas le chiffre, mais rien que la ZAC, là où il y a Lidl, où il y a la Côté Commune, c'est 500 emplois. Donc D'accord. C'est sans doute à Tourotte, on a contribué à créer quand même beaucoup, beaucoup d'emplois, en même temps que sont disparus les emplois dans les grandes entreprises, parce que Saint-Gobain, quand j'y suis rentré en 1970, c'était 3100 salariés. Aujourd'hui, c'est 700 ou 800. Donc, puis quand je suis peut-être un peu généreux, donc ça veut dire que ces emplois-là, ils sont disparus et ont été compensés par d'autres qui ont été créés. Aujourd'hui, on peut dire que le travail qu'on a fait a porté ses fruits et a permis de répondre, je dirais, à des besoins de gens qui voulaient investir sur la ville. Est-ce qu'on a répondu complètement aux emplois qu'il fallait pourvoir? Ça, c'est autre chose. Et là, c'est plus vraiment dans les cordes des élus qui ne peuvent voir que parfois, je dirais un peu avec regret, ce que l'éducation nationale fait, quoi.
Moi aussi, j'aurais voulu aussi intervenir sur ce que vous avez fait en 97, à savoir la rocade. Ça a créé des emplois, mais est-ce que vous avez les chiffres exactement? Combien d'emplois ça a créé?
La rocade, c'est difficile à dire, le nombre d'emplois ça a créé, parce que c'est des emplois induits qui ont permis une fluidité et un maillage du territoire. Donc c'est... Mais quelque part, quand je frôle le dossier en 97, tout est arrêté. Hein, tout est arrêté, la route est arrêtée. Et donc c'est des liens personnels que j'avais avec le ministre à l'époque des Transports et que j'ai rencontré plusieurs reprises, qui a débloqué les crédits et qui a donc assuré ce premier tronçon qui devait d'ailleurs continuer dans la foulée. Mais comme il y a eu un changement de gouvernement qui est passé de l'autre côté, ils ont réduit les budgets, etc. Et c'est tombé la trappe. Et j'ai réactivé, quand j'ai été réélu comme président des routes au niveau du département en 2004, et on a commencé à réactiver, et donc ça contribuait à ce qu'en 2017, donc le tronçon soit définitivement ouvert jusqu'au Noyon. Mais il y avait le projet d'aller vers Saint-Quentin, parce que maintenant on est un petit peu bloqué, enfin Chauny-Saint-Quentin, Ternier.
C'est plus d'actualité là.
Apparemment, c'est abandonné. Et Amroy est abandonné aussi. Ce qui ramène Noyon en cul-de-sac, quoi. Le cul-de-sac était à Clairoy, le cul-de-sac il est passé à Ribécourt. Maintenant, il a Noyon, quoi. Et c'est un peu dommage, parce que si on n'a pas ce maillage-là, les entreprises aujourd'hui qui transportent essentiellement par route considèrent que plutôt que c'est un handicap d'avoir une fluidité assez difficile du transport, quoi.
Donc on se rend un peu mieux compte de l'effet catalyseur que les municipalités peuvent avoir par rapport à la création d'emplois, notamment sur tout ce qui concerne
l'emploi. En tout cas, si ça n'a pas développé des entreprises qui sont venues, ça a permis de tenir. Parce que, Prenez l'exemple de la voie industrielle qui a été financée complètement par la Côte des communes et pour une petite partie par la commune de Ribécourt. Enfin, une petite partie, c'est près de 20% quand même. Donc... On a payé pour que les industriels ils restent à Ribécourt. Je rappelle, trois zones classées Céveso, trois usines classées Céveso. Et on s'est dit, si un jour il y a un camion qui fait une fausse route dans la ville et qu'il y a des accidents, on fera comme à ZF, on fermera toutes les usines qui y aura autour. Donc il faut se parer par rapport à ça. On a fait cette fameuse route pour, pour permettre aux camions de ne pas avoir à côtoyer des véhicules légers, des gosses. Parce que les camions, ils passaient devant la maternelle, devant la primaire, devant le collège, devant le lycée. Enfin, je veux dire, c'était n'importe quoi, quoi. Bon. Et on a permis de faire ça. Ça, c'est indirectement de contribuer au maintien d'emploi. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, la SECO, et pour des décisions, je dirais, politiques des entreprises, qui ne sont pas des décisions financières ou de rentabilité, qui décident de rationaliser les productions et qui décident de fermer le site de la SECO, ça n'empêche pas ça. Mais c'est un peu dommage, parce que ce n'est pas tellement rendre, je dirais, aux élus qui font des efforts, la contrepartie industrielle et emploi qui en découle pour les citoyens. Quoi. Ouais,
malheureusement, chaque entreprise est maître de sa stratégie. Maintenant, nous avons fait un petit peu le bilan. Parlons de l'avenir à court et moyen terme.
Alors, M. Carvalho, au niveau de la CC2V, quels sont les arguments en matière d'économie et d'emploi ?
Au niveau de la CC2V, c'est que nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse satisfaire localement tous les besoins pour les citoyens, quoi. Les besoins. Alors, je parle des besoins, parce que l'emploi, c'est pas seulement les productions industrielles, c'est aussi d'avoir des EHPAD, d'avoir des crèches. Ça, tout ça, c'est des emplois, hein, et ça correspond à un besoin. D'avoir, je dirais, toutes les structures de santé nécessaires. Aujourd'hui, moi, je dois me faire opérer de mon œil, je pars lundi à Paris. Enfin, est-ce que c'est une situation normale ? C'est pas une situation normale aujourd'hui. Et c'est pas par choix personnel, c'est parce que c'est Compiègne qui m'envoie à Paris. Donc ça veut dire que ça pose un vrai problème, quoi. Donc il faudrait avoir toutes ces structures qui soient, je dirais, sur place, et en même temps, que les industriels accompagnent, je dirais, tout ce qu'on pourrait construire pour que les gens puissent bien vivre localement, des investissements industriels qui permettent aux gens de vivre sans trop se déplacer. Parce qu'on parle de supprimer le gasoil, on parle de tout ça, mais quand on voit tous ces pauvres gens qui roulent avec des vieilles bagnoles, qui font 50-60 mètres tous les jours pour aller travailler, aller et autant retour, bon, c'est quand même un peu catastrophique. Moi, je suis de la génération quand même où Saint-Gobain est arrivé à Tourotte en 1920, et qui, donc moi je n'étais pas là en 1920, je suis de 52, donc je n'étais pas là en 1920, mais ils sont arrivés à Tourotte, ils ont construit la ville. Il n'y avait qu'une route dans la ville, ils ont construit la ville, ils ont fait des centaines de logements, ils ont fait leur boucherie, leur charcuterie, leur coopérative, une école, un cinéma, un hôtel, des bains-douches, enfin je veux dire, une bibliothèque, tout ça c'est arrivé en même temps. C'est fini, il n'y a plus d'industriels qui arrivent et qui construisent. Ils construisent leur usine, ils produisent, ils vendent, ça s'arrête là. Et après c'est aux villes de faire autour. Et donc il y a eu un changement assez fort, la crise pétrolière des années 70 a contribué à ce que Saint-Gobain se débarrasse de toute cette charge qu'il avait, qui était pas complètement de leur responsabilité. Et puis aujourd'hui, c'est la ville qui a toute cette responsabilité. D'ailleurs, à mon avis, Tourotte a une trop grosse charge par rapport, à sa population, qui est quand même relativement petite. On est équipé comme une commune de 40 000 habitants. Enfin, trois salles de sport, crèche, piscine, cinéma. Enfin, il n'y a pas grand monde dans le coin qui a ce type d'activité, quoi. On est équipé comme des grosses communes, mais avec des revenus qui sont de plus en plus bas.
Mais ça, c'est aussi parce que vous parlez de l'investissement. Les entreprises investissent donc dans Tourotte et aux environs. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que chercheurs d'emploi, c'est quels sont vos liens, quelle interaction vous gardez avec toutes ces entreprises qui viennent encore investir aujourd'hui encore à Tourotte et dans la région, et quels sont les lieux où on peut avoir accès à ces postes?
Écoutez, secrets. Il se trouve que nous avions lundi une entreprise qui s'est installée, c'est moi qui ai signé les contrats avec eux et tout, de vente de terrain, et qui a fêté ses 20 ans. Alors, ils n'ont pas commencé à Tourotte tout de suite. Hein. Ils sont venus à Tourotte un peu après. Mais une entreprise qui, c'est Propreté 2000, hein, dont vous avez entendu parler, c'est une entreprise donc qui prend une main d'œuvre au départ, qui n'a pas des bac plus 5, hein, qui viennent travailler chez eux, mais c'est une entreprise dont la direction, c'est familiale. Hein. Et en fait, cette famille-là, elle a pris la décision, je dirais, d'être à l'avant-garde et de former les gens aux nouvelles techniques, etc. C'est vrai que maintenant, dans une entreprise, vous ne rentrez plus d'entreprise. Comme on rentre chez vous, là, hein, vous avez vu, hein, c'est le bunker ici. Hein. Pour arriver ici, il faut avoir fait bac plus 20, je ne sais pas quoi, et encore, si les portes sont ouvertes. Mais je veux dire, c'est pareil dans l'entreprise. Maintenant, si vous n'avez pas une certification, si vous n'avez pas des salariés qui respectent, qu'ont conscience des questions d'environnement, d'hygiène industrielle ou de sécurité, vous ne rentrez pas sur les sites. Ces gens-là, ils sont mis au top. Et aujourd'hui, ils ont un personnel qui est super formé. apparemment, le personnel a l'air plutôt satisfait de la situation. Ils ont un emploi, ils sont comment dire, reconnus. Et en plus, ils sont diplômés à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui veut dire que le gars qui veut se mettre à son compte demain pour faire la même chose, il peut le faire. Qu'aujourd'hui, si vous travaillez chez Continental, on va en parler puisqu'ils sont partis. Mais Continental, puis vous faites ça, toujours le même mouvement sur une machine, le jour où la boîte elle ferme, bon, vous pouvez retrouver faire la même chose à Saint-Gobain avec du verre, mais quoi que ça se fait même plus maintenant. C'est compliqué. Si vous avez un métier, si vous avez fait des formations annexes, vous avez toutes les chances de vous en sortir. Le drame d'aujourd'hui, et c'est un problème qui est lié à l'État, à l'éducation, moi je pense que d'abord on n'a jamais revalorisé vraiment le travail. Les gens qui étaient des manuels comme nous, ils n'ont pas voulu que leurs enfants fassent la même chose. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé les enfants dans les écoles, qui ont des bacs plus 5, mais qui n'ont pas plus de boulot pour autant, alors qu'on avait un besoin cruel de maçons, de menuisiers, de chaudronniers, de mécaniciens, de tourneurs, de fraiseurs, d'ajusteurs. Enfin, je veux dire, tout ça, ça manque sur le marché, mais on continue à ne pas en former. La solution, ça serait quand même qu'on forme nos jeunes qui sont dans les cages d'escalier à ces métiers-là. Moi, si je vois trop long, si je peux encore dire une chose.
Non, bien sûr, allez-y.
Moi, par exemple, moi, je suis j'ai passé mon certificat d'études. À l'époque, il n'y avait pas de bac. C'était pas le bac, hein, c'était le certificat d'études. Donc, je l'ai eu. Il dit, Patrice, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, j'avais un frère qui avait choisi, il était 3 ans plus vieux que moi, cuisinier. Bon. Alors, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, cuisinier, monsieur Fetelier. Ah non, des cuisiniers, il n'en faut pas, Patrice. Tu choisis entre électricien, chaudronnier ou mécanicien. Et puis, comme j'aimais la moto, j'ai mécanicien. Je suis devenu mécanicien. Pas de peau, c'était la mécanique générale, donc rien à voir avec la moto, avec les voitures. Mais enfin, bon, c'était la mécanique générale, mais sur des moteurs qui étaient démontés. Donc j'ai appris mon métier comme ça, j'ai aimé mon métier. J'ai fait toute ma carrière à Saint-Gobain comme mécanicien jusqu'à ce que je sois député en 97. C'est pas un sous-métier, parce qu'en fait, je trouve que c'est un épanouissement terrible. Le gars qui est informaticien, quand il va partir en retraite, il va dire quoi, ses gosses? J'ai été informaticien? Oui, c'est quoi, informaticien? Tu sais, c'était des trucs qui commandaient les machines, qui servaient à faire de la gestion plus facile, etc. Le menuisier, j'ai fait ce toit-là. J'ai fait ce toit-là aussi. C'est moi qui faisais les fenêtres et les portes là-bas. C'est un autre métier. Ouais, non, mais il faut savoir quand même, on dévalorise des choses qu'on devrait valoriser. Alors, je ne dis pas que l'informaticien, il n'en faut pas, il en faut. Malheureusement, il en faut aussi. Hein. Il faut des gens qui soient dans tous les corps des métiers. Il faut des ingénieurs. Il faut des gens qui, pour ceux qui ont des têtes, qui ont les moyens d'aller plus loin. Donc, c'est ça un peu le drame. C'est qu'on a détourné les gens des métiers manuels, qui sont des métiers riches et qui permettent l'épanouissement. Et je pense que bon... C'est un peu dommage que l'État français, au travers de l'éducation nationale, ne revoie pas les choses. Alors, pendant un moment, il paraît de faire revenir les enfants. Moi, j'ai défendu, à l'inverse de mon groupe politique, j'ai défendu l'idée de revenir aux apprentis à 14 ans.
Ouais. Alors, donc, la question suivante, en fait, c'est de savoir si, admettons, une entreprise vient s'implanter, où est-ce qu'on se... tourne pour pouvoir savoir les postes vacants?
Alors moi, j'ai toujours une pratique. À chaque fois qu'un entrepreneur investit à Tourotte, l'accord moral, parce que c'est peut-être qu'un accord moral, on ne peut pas signer ça, un accord moral, c'est dire vous donnez priorité aux gens du territoire. C'est pour emmener des gens qui viennent de 200 km. Bon, quand c'est des métiers dont on ne trouve pas localement les gens, peut-être. Mais pour le reste, jusque maintenant, j'ai obtenu. Moi, je vois, le dernier en date, c'est Super U. À Tourotte, bon, il a joué le jeu, il a embauché.
Mais par exemple, moi, je mets mon CV où?
Au départ, c'est nous qui collectons les CV à la mairie. Ça s'est passé comme ça à chaque fois. Et après, on le donne à l'employeur, c'est lui qui a la responsabilité d'embaucher ou pas embaucher.
Et l'info, par exemple, elle est où de savoir
Les gens, ils savent. Les gens, ils téléphonent à la mairie, c'est comme ça. Alors, je voudrais postuler sur un emploi. Donc, amenez-moi le CV, la secrétaire à la consigne. Et on les met en une chemise. Et quand il y en a un certain nombre, on le donne. Et en fait, général, eux, ils font le tri. Ils convoquent les gens quand ils ouvrent.
Hein. D'accord. On va faire un bref petite pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Someone said
niveau de l'emploi, on va essayer de se reconcentrer sur une petite dernière question qui était au sein de la communauté de communes, la CC2V. Au niveau des entreprises, quelles sont les différentes initiatives collectives actuelles et comment vous les accompagnez ?
Alors, on n'a pas de réunion régulière avec les entreprises. Juste avant de venir, j'étais avec une entreprise locale qui est liée à Seine-Nord et qui nous dit, nous, on voudrait savoir ce qu'on va devenir. Parce qu'aujourd'hui, ils font venir des pierres. Enfin, ce sont des Belges qui, donc, amènent de la pierre en France. Et en France, on n'a plus le droit de faire de carrière. Donc, c'est formidable. On les fait venir de Belgique. À Belgique, ils font des trous de 300 mètres de profondeur et on extrait la pierre, on la ramène en France. En France, c'est plus possible parce que, en fait, bon, on a une réflexion qui est un peu limitée en matière environnementale parce que si on veut du développement économique, on n'a pas d'autre solution que de prendre des matériaux dans la terre. Alors, il faut le gérer, on est d'accord. Il faut faire en sorte que ça ne soit pas des cimetières après abandonnés au gré des vents. Mais donc, ces industriels-là, ce qu'ils veulent, enfin, ces entreprises-là, ce qu'elles veulent, elles, c'est une pérennité pour pouvoir penser à l'avenir. Et quand vous avez des services de l'État qui vous disent, ben oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, vous dites, ça va se faire, ça ne va pas se faire, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'ils ne savent plus très bien. Seine-Nord, c'est quand même le serpent de mer. Alors, je suis convaincu que ça va se réaliser à titre personnel, parce qu'on n'est jamais allé aussi loin. Mais les années de passent. Hein, on l'avait promis pour 2005, et puis après on l'a promis pour 2011, et puis là on va arriver en 2020. Enfin, je veux dire, ouais. À la fin, ça fait quand même pour les gens qui sont en place, qui ont besoin de ça pour vivre, parce qu'eux, ils utilisent la voie d'eau aujourd'hui. Dire que c'est pas les camions de pierre, ils viennent pas par camion.
Why do I always help you carry on?
Vous êtes bien sur Radiographie 94.9 FM. Donc nous sommes avec Monsieur le maire de Tourotte, Monsieur Patrice Carvalho, qui est en train de nous expliquer comment il accompagnait différents collectifs au niveau des entreprises, mais aussi citoyennes. Donc ça, c'était un petit peu le pendant de ma question. Donc je vais vous lancer, mais juste sur la partie citoyenne, peut-être. Est-ce que vous accompagnez des actions citoyennes au niveau de la municipalité ?
Pas tellement, honnêtement, pas tellement. Quelques associations qui... là, faut être sérieux. Je pense qu'on n'a pas trop été confronté à ça. Les villes comme Compiègne, peut-être, sont plus confrontées à ça que nous. Mais, vous savez, je ne sais pas si c'est toujours dans le bon esprit. Parce que, imaginez qu'aujourd'hui, Tourotte, ce soit Tourotte de 1920. Et que l'usine arrive aujourd'hui à Tourotte. Impossible de faire. Vous avez une ville oubliée, tout le monde. C'est impossible de faire.
Un exemple concret, Monsieur Carvalho, que peut-on faire pour améliorer la mobilité sur les territoires ? Parce que c'est quand même c'est un frein, quand même, la mobilité.
Alors ça, je pense que des départements sont plus en avance que nous, comme par exemple la Corrèze, le Lot, etc. Ils ont fait beaucoup d'aires d'accueil pour covoiturage. Ça, c'est important. Nous, dans notre territoire, on ne l'a pas tellement fait. On a dit aux gens, il faut que vous soyez mobile, mais on n'a pas anticipé pour que la mobilité soit plus facile et qu'elle coûte moins cher aux gens. Hein. Moi, j'ai connu ça à Saint-Gobain. À Saint-Gobain, quand on distribuait les trucks à la porte de l'usine, il n'y a pas de voiture qui rentrait pas pleine. Les gars, ils se mettaient d'accord dans les villages, ils partaient tous ensemble, quoi. Chacun tour de rôle pour sa voiture, pour faire les économies. Aujourd'hui, on devrait pouvoir faire la même chose en covoiturage. C'est-à-dire que la mairie ou la commune fait des aires de covoiturage pour accueillir les voitures en stationnement. Et puis après, mais ça veut dire qu'il faut équiper avec des caméras, etc. Parce que les gens, ils ont peur de laisser les voitures dans la pampa et pas la retrouver le soir en revenant. Hein, parce que bon, les horaires de travail ne sont pas toujours de jour. Hein, donc on peut avoir des équipes en 3-8 ou en 5-8. Donc tout ça, c'est possible. Mais c'est vrai que nous, on a été assez peu sollicités sur ce type d'investissement à faire. Alors, mais je vois qu'ailleurs, ça marche. C'est pour ça que ça me surprend un peu. Quand je vois, notamment dans le Lot, de nombreux endroits, il y a des voitures stationnées toute la journée. Et parce que c'est du covoiturage. D'ailleurs, c'est marqué aire d'accueil, covoiturage.
Et si demain on veut le créer, par exemple, on doit s'adresser. La CD2V, elle va nous appuyer
on va regarder la chose et on va contribuer, je pense, à l'investissement. Quoi. Parce que bon, si par exemple, il faut en faire une à Marais-sur-Molle, pauvre maire de Marais-sur-Molle, son budget aura un peu de mal pour réaliser ça. On peut le faire qu'en faisant un effet de masse. Quoi.
D'accord. Et donc, quelles sont les perspectives d'avenir en termes d'emploi pour Tourotte et la CC2V ?
Bah là, la CC2V a lancé donc la création d'une ZAC sur Longueuil. Hein. On a beaucoup de difficultés avec les agriculteurs qui refusent de vendre ou qui bloquent le système. Mais on finira par gagner, hein, parce qu'en fait, c'est la déclaration d'utilité publique qui prend le dessus à chaque fois. Mais après, à des prix qui peuvent être un petit peu surdimensionnés pour ce qu'on peut porter. Donc ça, c'est une première chose. Et puis là, à Tourotte, on va vendre les 9 hectares qui nous restent de la ZAC. À des investisseurs qui vont donc créer de l'emploi et qui vont créer de l'activité et qui créent en lien avec la ville de l'activité dont on a besoin. Parce que par exemple, Hassan, il dirige le centre d'entrepreneuriat de Longueuil. Oui. Après, quand les gens ont passé les 3 ans, le gars, s'il a de l'argent pour investir et construire son bâtiment, il le fait. S'il n'a pas, il faut qu'il aille ailleurs louer quelque chose. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide donc les entreprises à investir pour pouvoir faire ce type d'activité derrière nous.
D'accord. Quand on parlait d'Hassan, c'est la pépinière d'entreprise.
La pépinière d'entreprise, Monsieur Hassan Fassé, qui la gère aujourd'hui.
D'accord. Qu'on l'invitera certainement lors d'une prochaine émission d'ailleurs. Bref extrait, et on se retrouve juste après.
Vous êtes toujours sur Radiographie 94.9.
Vous êtes toujours sur Radiographie de 94.9 FM. Donc on a eu la chance d'avoir M. Patrick Carvalho, maire de la mairie de Tourotte, qui nous a gentiment un petit peu fait quelques anecdotes historiques, mais aussi un brin conté l'évolution de la ville de Tourotte, la construction même, je dirais, grâce notamment à l'arrivée de Saint-Gobain, et qui a aussi souligné donc le fait qu'on peut s'appuyer autour de Centre Angèle Fontaine, la pépinière d'entreprise, que la municipalité utilise un peu comme catalyseur d'emploi, de création d'emploi, Monsieur Carvalho, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Sama pour les annonces.
Alors, deuxième édition, Job Dating Emploi à domicile. Aujourd'hui, depuis 9h jusqu'à 14h aujourd'hui, à la salle Saint-Nicolas de Compiègne. Pensez à vos CV.
Hélas, l'émission touche à sa fin. Je tiens à remercier dans un premier temps Monsieur le maire. Monsieur Carvalho, merci d'être venu. On vous rappelle que l'émission est diffusée tous les troisièmes jeudis du mois sur les ondes de Radiographie, donc restez connectés. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne fin de journée. Et je tiens aussi une petite parenthèse également de dire, nous sommes dans l'actualité du mondial de la Coupe du Monde de football, alors soutenez votre équipe et allez les Bleus. Au revoir à tous et à toutes.